Bonjour et bienvenue sur Communautaire, la communauté des initiatives saines et éco-responsables. Je suis Pauline Ebel, entrepreneur à impact. Avec Communautaire, je vous propose de rencontrer ensemble des acteurs engagés pour la planète et pour la santé et de vous faire découvrir toutes les initiatives menées à titre entrepreneurial, individuel ou bénévole, visant à produire ou à consommer plus durablement. Belle écoute! Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Communautaire. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une solution de livraison zéro déchet, PandoBac, co-créée par Shu Zhang. PandoBac, c'est un service clé en main de contenants réutilisables pour le transport de marchandises alimentaires entre professionnels. Une solution qui repose sur une innovation d'usage basée sur le principe de l'économie circulaire et du zéro déchet. Mais je n'en dis pas plus et Shu, je vais te demander de te présenter, de nous parler de ton parcours et ce qui t'a amené à créer PandoBac.
Bonjour, merci de m'accueillir sur ce podcast. Alors moi, je m'appelle Shu et j'ai créé PandoBac en 2018. Et PandoBac est vraiment venu de mon expérience précédente professionnelle où en fait j'ai créé et géré un restaurant pendant 4-5 ans. La chose qui m'embêtait le plus dans le restaurant, c'était de gérer mes déchets qui venaient en fait de la part de mes fournisseurs. Donc c'était tous les approvisionnements que je faisais quotidiennement arrivaient dans des emballages donc jetables comme des cartons, des cages à tambois et des caisses polystyrène. Et en creusant un petit peu auprès de ces fournisseurs, je me suis rendu compte que rien n'existait en fait comme solution. Et les fournisseurs étaient obligés en fait de livrer dans des emballages jetables parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Et partant de là, je me suis dit que ça me paraissait absurde comme fonctionnement et j'ai voulu créer quelque chose, une solution enfin, pour pouvoir proposer des emballages donc réutilisables à la place de ces emballages jetables. Ça a vraiment découlé effectivement de cette expérience précédente et du coup PandoBac est né de là.
Alors est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail parce que PandoBac ce n'est pas que des contenants, c'est aussi un audit, du conseil, un suivi, c'est aussi une solution digitale.
Oui, alors effectivement, l'idée de base était venue donc de ce constat de dire il faut qu'on fournisse des emballages réutilisables. Sauf qu'en fait, fournir l'emballage seul ne suffit pas, bien entendu, pour que le système de réemploi d'emballage fonctionne. Donc forcément, il fallait aussi proposer une solution pour collecter ces emballages, pour les retourner, pour les laver, parce que c'était des produits alimentaires, donc il faut quand même garantir l'hygiène et la sécurité alimentaire. Les emballages, comment s'assurer qu'en fait ils vont vraiment revenir, comment s'assurer de pas en perdre trop dans la nature. Donc tous ces sujets-là, en fait, ont amené effectivement à la construction d'une offre aujourd'hui qu'on appelle clé en main, parce qu'en fait elle est complète, où on va effectivement fournir des emballages réutilisables qui sont adaptés au type de produits transportés. Donc là, on a un catalogue de bacs en fait réutilisables. On assure la collecte de ces bacs, on les lave, comme je disais, et on a développé effectivement une application de suivi qui permet de suivre tous les stocks et les flux de contenants pour exactement en fait savoir où ils sont à chaque étape. Effectivement, on a plus récemment, cette année en fait, depuis un an à peu près, développé une offre de conseil. Parce que les sujets de réemploi d'emballage sont un peu obscurs pour la plupart des personnes. Donc on vient vraiment apporter notre expertise sur le sujet pour aider d'autres entreprises ou des collectivités à mettre en place leur propre système de réemploi d'emballage. Donc là, on les accompagne sur les différents sujets de choix de contenants, de choix logistiques, de modélisation de scénarios. Donc c'est vraiment de l'accompagnement, mais assez opérationnel.
Toujours dans l'univers des emballages alimentaires ?
Alors, on est principalement effectivement sur de l'alimentaire parce que c'est là où en fait il y a aussi une quantité très très forte de d'emballage. Hein, c'est très simple, mais pas que. C'est-à-dire qu'on travaille aussi avec des segments non alimentaires On a un client notamment vaisselier, donc qui produit vraiment de la vaisselle, qui transporte donc ses assiettes et autres dans nos bacs réutilisables. On a déjà travaillé avec le secteur de la cosmétique aussi, de l'habillement. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres aussi secteurs qui sont générateurs d'emballage, mais ça reste l'alimentaire qui est le principal émetteur.
D'accord. Et tu parlais tout à l'heure d'un catalogue de contenants, c'est-à-dire quoi qu'il existe, soit de plusieurs tailles ou plusieurs types de matériaux.
Alors effectivement, alors nous dans le catalogue, c'est enfin le nôtre, c'est des bacs qu'on a choisis en auditant énormément de fournisseurs possibles et de fabricants pour trouver justement ceux qu'on considère les mieux d'un point de vue ergonomique, utilisation, solidité, voilà, avec et l'usage aussi tout simplement que nos clients ont de ces bacs. Alors tous nos bacs sont en plastique réutilisable, qui est un peu le seul matériau aujourd'hui qu'on peut utiliser pour ce type en fait de transport. Hein. Ça reste quand même des manutentions et de la logistique. Il faut quelque chose de solide, de léger. Mais après, effectivement, il y a plusieurs formats, et il y a plusieurs aussi, disons, modèles. Il y en a avec couvercle, sans couvercle, il y en a qui sont un peu ajourés, d'autres non. Donc, ça dépend vraiment du type de produit qui est transporté. Et effectivement, on essaie d'avoir un catalogue assez réduit pour justement aussi favoriser la standardisation des emballages, pour ne pas, en fait, mettre un emballage réutilisable différent pour chacun de nos clients, où en fait on pourrait pas trop massifier les flux et pas trop optimiser voilà, non plus les différents flux logistiques.
Et les emballages, ils s'adaptent à tout type de produits, parce que je crois que le polystyrène, en l'occurrence, il avait des propriétés thermiques et s'appliquait très bien à des produits frais. En l'occurrence, est-ce qu'on retrouve ces mêmes propriétés avec les contenants pour nos bacs?
Alors, il n'y a pas de propriété thermique, effectivement, avec du réutilisable aujourd'hui. Il y a quelques contenants réutilisables qui ont des sortes de doubles parois qui permettent un peu d'isoler le produit. Mais le polystyrène, malgré tout ce que ça engendre comme pollution, ça reste un matériau qui est assez magique. Hein, c'est-à-dire que c'est très, très léger, c'est quand même très solide et ça isole très, très bien, effectivement, de la température. Aujourd'hui, nous, on travaille avec plein de secteurs différents et majoritairement, d'ailleurs, tout ce qui est produit de la mer. Et en fait, on se rend compte que le polystyrène, chez beaucoup, est devenu plus une habitude qu'un vrai besoin, en fait, de thermique. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin aujourd'hui parce que les chaînes de froid sont vraiment contrôlées, c'est-à-dire que le produit est dans des entrepôts frigorifiques, ensuite dans des camions frigorifiques, ensuite arrive dans des chambres froides. Donc il n'y a jamais un moment en fait où il y a une rupture de chaîne du froid, parce que de toute façon c'est interdit. Et derrière, voilà, l'utilisation de polystyrène, c'était aussi pour au cas où il se passe quelque chose où le produit doit rester dehors pendant quelques heures. Aujourd'hui, si de toute façon c'est pas le cas, ça reste toujours dans des chambres froides, on n'a plus besoin vraiment du polystyrène. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie de faire changer aussi dans les habitudes de nos clients, de dire voilà, n'ayez pas peur de ne plus utiliser de polystyrène parce que ça marche et on fait des tests de température pour s'en assurer.
Très bien. Et alors, comment ça marche concrètement si moi, demain, j'ai un restaurant avec, par exemple, on parlait de poisson à la carte, je me fais livrer ma marchandise de mon fournisseur habituel. Du coup, c'est le fournisseur qui doit faire la démarche de changer son type d'emballage et ensuite, il récupère ou c'est Pandobac qui fait la collecte des bacs.
Oui, alors les deux cas sont possibles, mais effectivement, l'emballage, étant donné qu'il est mis sur le marché par le fournisseur, c'est pas le restaurant qui décide aujourd'hui de comment il est livré, c'est le fournisseur qui conditionne dans son entrepôt, qui s'occupe, qui gère en fait cet emballage. Donc effectivement, c'est le fournisseur avec qui nous on traite. Le restaurant est plutôt le bénéficiaire en fait de la solution. Et deux possibilités, bien sûr, le fournisseur peut livrer et récupérer du coup par la même occasion les emballages donc de la veille, par exemple, de la précédente livraison. S'il le souhaite, on peut également le faire à sa place. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les différentes briques en fait de notre service qui peuvent être pris un peu séparément en fonction des besoins de nos clients et de lui les ressources qu'il a apportées.
Et dans le cas où c'est le fournisseur qui récupère, en l'occurrence les bacs de la veille, c'est lui aussi qui va se charger du lavage ou finalement, vu qu'il va revenir au même point d'approvisionnement, et je crois qu'en l'occurrence, on parle de Rungis, du coup, la station de lavage étant basée là-bas, il le dépose directement à la station de lavage pour en reprendre d'autres pour la prochaine livraison.
Oui, ben là, du coup, ça se passe souvent comme ça, effectivement. Il revient à Rungis dans son entrepôt, d'où il est parti, où il nous les dépose effectivement sur le chemin, sachant qu'on est vraiment à 1 minute, 2 minutes de tout le marché de Rungis, où il le redépose dans son entrepôt et nous on fait l'aller-retour entre notre centre de lavage et son entrepôt pour déposer effectivement des propres et reprendre les sales. Donc de toute façon, aujourd'hui on essaie au maximum d'avoir des trajets qui sont toujours pleins et pas à vide. On est toujours en train de redonner des propres, reprendre des sales. Il n'y a jamais une tournée, disons, complètement vide qu'on fait.
Oui, tout est optimisé. Et alors, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a que entre 1 à 2% des professionnels qui réutilisent les emballages. Et tu mentionnais tout à l'heure qu'il y a aussi un problème d'habitude où ils ne savent pas forcément trop comment faire. Quels ont été les obstacles au départ? Est-ce que ça a été facile de les convaincre?
Alors nous, on s'est créé en 2018. Clairement, en 2018, ce n'était pas du tout un sujet sur la table, le réemploi d'emballage. Les gens à qui on parlait ne comprenaient même pas de quoi on leur parlait. La plupart des gens nous disaient « Ah, mais si, moi, ce que j'utilise, c'est du carton, mais c'est recyclable, donc c'est pareil que ce que vous faites, en fait. » Et c'était pas du tout clair, en fait, dans la tête des gens. Et là, depuis donc 3 ans, on a clairement vu la différence. C'est incroyable à quel point ça a évolué sur le sujet. Et du coup, nous, au début, la difficulté, c'était de faire comprendre l'intérêt, en fait, tout simplement, de réemployer par rapport à du recyclage. C'était pas du tout clair, en fait, dans la tête des gens. Et ensuite, de lever les freins un peu, comme je disais, les freins un peu d'hygiène, de sécurité alimentaire, de dire, oui, mais comment je m'assure, effectivement, que c'est propre, comment je les récupère dans mon camion, mais qui doit les récupérer. Donc, en fait, c'est tous les freins un peu psychologique du changement et de toutes les nouvelles choses en fait qui paraissaient assez insurmontables à nos clients. Et c'est aussi on a pu échanger avec énormément de personnes et on a vraiment avancé dans nos débuts avec ceux qui étaient les plus matures sur le sujet, les plus visionnaires, les plus en avance en fait sur le sujet. Et c'est avec eux qu'on a lancé les choses, qu'on a testé. Et les autres, quand ils ont vu que en fait ça marchait bien, qu'il n'y avait pas de problème, ont aussi suivi quoi. Donc il fallait réussir à identifier en tout cas les pionniers en la matière.
Et alors pourquoi les emballages étaient jetés auparavant? Alors je peux comprendre que dans les emballages où il y avait par exemple du poisson, il y a une question d'hygiène et les restaurants sont très stricts sur cette question-là. En revanche, une palette de kilos de pommes et de poires, elle peut clairement être utilisée pour une prochaine livraison. Donc pourquoi il y a autant d'emballages qui ont été jetés? Et je crois que c'est plus de 3 millions d'emballages alimentaires qui sont jetés chaque jour.
Oui, alors il y en a vraiment énormément, oui. Alors le chiffre est dur à estimer parce que personne n'a vraiment estimé ce gisement aujourd'hui. Les emballages professionnels sont très peu observés. Donc c'est assez récent, là il y a une étude de l'ADEME qui est en cours, dont les résultats vont paraître, j'espère, bientôt, qui a essayé justement de mesurer ce que ça représente les emballages professionnels dans le monde de la restauration. On aura des chiffres un peu plus précis, j'espère. Mais en tout cas, voilà pourquoi c'était jeté. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, disons, c'est que l'emballage en lui-même, carton, cage en bois et casse polyestyrène, en fait, c'est des emballages qui sont créés pour être à usage unique. Donc, en fait, une fois qu'ils sont utilisés, ils ne sont pas censés normalement être réutilisés. Sauf un peu comme ça, quelqu'un qui veut réutiliser, qui le récupère, mais en fait, dans le cahier des charges de ces emballages, ils ne sont pas faits pour être réutilisés. Du coup, d'un point de vue vétérinaire, purement administratif, hygiène vétérinaire, c'est très clair pour les services vétérinaires que ces emballages, du coup, deviennent des déchets et du coup, ne peuvent pas être récupérés dans le même camion, en fait, où il y a des choses propres dedans.
D'accord.
Du coup, il y a un vrai danger, on va dire, réglementaire. Si, effectivement, les services vétérinaires arrêtent un camion et dans le camion, il y a des cagettes pleines de pommes, et des cagettes vides ou des cartons vides qui ont apparemment été utilisés, effectivement, c'est interdit de le faire. Donc ça, c'est un peu la première raison. Et après, c'est vraiment une question d'habitude. C'est-à-dire que quand les emballages à usage unique sont arrivés un peu comme ça. Enfin, avant, on était tous sur des emballages consignés. C'était vraiment dans les habitudes et c'était la base des transports. Quand c'est venu, en fait, effectivement, c'est beaucoup plus pratique de se dire que une fois qu'on a livré la marchandise, on s'occupe plus de rien et tout est géré ensuite par le restaurant. Donc c'est globalement une question de facilité et de réglementation aussi liée à la nature de l'emballage jetable.
Et est-ce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de restaurateurs qui font la demande, qui viennent vers vous, alors que j'imagine que 2018 l'idée c'était plus d'aller les démarcher et de leur faire comprendre tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, poussé par des initiatives telles que Écotable par exemple, qui s'engage pour plus de circuits courts, plus de local, plus de transparence et plus de réutilisation, de recyclage, est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment on observe une recrudescence de cette demande d'emballage réutilisable?
Alors oui, il y a bien sûr la création du label Écotable qui a beaucoup aidé, qu'on a suivi en fait dès le lancement. Ça, c'était assez drôle parce qu'on s'est à peu près lancé en même temps. Après, il y a aussi, nous, on collabore pas mal avec le GNI, qui est un syndicat en fait de restaurateurs, et eux nous font intervenir assez régulièrement justement pour témoigner de ça, faire connaître la solution au restaurant. La plupart des restaurants aujourd'hui ne savent pas en fait que leur fournisseur peut faire autrement. Donc aujourd'hui, on continue ce travail un peu de sensibilisation, de faire connaître la possibilité en fait au restaurant de demander à leur fournisseur d'être en bac réutilisable. Après, bien entendu, il n'y a pas tous les fournisseurs qui peuvent s'y mettre du jour au lendemain. Voilà, il y a quand même une période de transition, il faut étudier le sujet, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un manque d'informations pour les restaurants, et quand on leur dit que c'est possible, en fait, il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais moi, je rêve de ça depuis longtemps, mais je ne savais pas que les fournisseurs pouvaient le faire. »
En plus de ça, il y a un réel impact économique pour eux.
Pour les restaurants, clairement, ça prend beaucoup de temps en fait de gérer les déchets d'emballage. De casser des cartons, d'aller trouver une poubelle pour les jeter. Il y a parfois, alors ça dépend vraiment des endroits, mais en tout cas à Paris, dans certains quartiers, il y a des amendes quotidiennes pour certains restaurants qui sont obligés en fait de faire une pile d'emballage à côté de leur poubelle en fait pour que les éboueurs puissent les prendre. Et ça, c'est interdit. Donc, ils se prennent des amendes. Donc, clairement, le restaurant aujourd'hui, il rêve que de ça, quoi. On a parlé à très très peu de restaurants qui n'étaient pas très intéressés. Enfin, au final, tout le monde voit vraiment le temps gagné en gestion de déchets. J'avais visité les cuisines du Ritz, notamment. Et ils ont une salle entière dans le sous-sol de l'hôtel qui est remplie en fait de déchets d'emballage, quoi. C'est assez hallucinant, où c'est une pièce. Et effectivement, les gérants du restaurant du Ritz disaient, évidemment, c'est terrible, quoi. Mais on a des tels volumes, on est obligé effectivement d'avoir une salle entière pour les stocker, le temps de les faire récupérer ensuite par des entreprises spécialisées, quoi. Donc,
c'était
c'était assez impressionnant. Mais effectivement, oui, c'est des économies donc pour les restaurants. Et ensuite, nous, voilà, notre positionnement aussi en tant qu'entreprise en fait qui s'adresse à une entreprise, on sait que voilà, les fournisseurs, les grossistes, c'est des entreprises souvent qui sont familiales, qui ont des marges assez faibles. Hein, c'est un travail quand même assez dur, voilà, d'acheter au mieux, de vendre au mieux, et en plus ils ont énormément de choses opérationnelles et logistiques à gérer. Et aujourd'hui, voilà, leur dire, bah, il faut passer au réutilisable, et puis ça va vous coûter tant plus cher, en fait, c'est impossible à vendre comme discours. C'est vraiment impossible. Donc nous, on a vraiment ce positionnement, voilà, de dire, on veut créer un système, enfin, on a créé d'ailleurs un système où on veut que tout le monde y gagne et que le coût de l'emballage, en fait, soit le même que l'emballage jetable pour faciliter la transition et surtout ne pas handicaper les fournisseurs qui aujourd'hui, voilà, ont aussi beaucoup d'autres choses à gérer au niveau opérationnel et logistique.
Mais ce que tu dis est différent, c'est que les emballages réutilisables, finalement, ne coûtent pas plus cher que des emballages à usage unique. Et au contraire, vu qu'ils sont réutilisables, j'imagine qu'il y a aussi un moment, ben, un levier où en fait ça devient plus intéressant à partir d'un certain nombre d'utilisations.
Oui, alors c'est assez complexe en termes d'impact économique et écologique d'ailleurs du réemploi d'emballage. En fait, il y a un vrai enjeu effectivement du nombre de réutilisations d'un emballage, parce qu'effectivement un emballage réutilisable qu'on va utiliser que deux fois comparé à 200 fois, bon, clairement, on voit que le coût de l'amortissement est très différent. Donc il y a un vrai enjeu en fait dans du réutilisable de s'assurer du nombre effectif de réutilisations. Qui va permettre effectivement de baisser les coûts. Donc ça, c'est purement au niveau de l'emballage en lui-même. Mais après, il y a tous les coûts autres, donc logistiques, de collecte et de lavage qui sont en plus à rajouter, disons, par rapport à un emballage jetable. Et ça, ces coûts-là, les leviers pour les baisser au maximum, c'est de massifier les flux, de collecter un camion complet à chaque fois plutôt que effectivement quelques bacs par-ci par-là, ou justement comme nous on fait d'utiliser au maximum les camions qui circulent déjà aujourd'hui en fait et qui peuvent récupérer sans rajouter de trajets supplémentaires. Et ensuite sur le lavage c'est pareil, c'est plus on a de volume, plus on arrive à industrialiser, à faire baisser les coût fixe aussi et à faire baisser le coût unitaire de lavage. Donc c'est pour ça que le réemploi aujourd'hui c'est un peu ce qui freine un peu son développement. C'est le serpent qui se mord la queue dans le sens où tant qu'on n'a pas des volumes nécessaires pour arriver justement à cette massification et cette baisse de coût drastique, le réemploi peut être effectivement plus cher que le jetable. Mais tant qu'on n'a pas ces volumes, on ne peut pas du coup atteindre un coût moins cher. Donc souvent, on reste un peu bloqué sur le réemploi d'emballage. Il y a beaucoup de projets qui restent bloqués comme ça en disant oui, mais si je n'ai pas plus de volume, je ne peux pas baisser les coûts. Mais en même temps, voilà, je reste plus cher sur le début. Nous, on a ce pari et c'est plus simple pour nous parce qu'on s'adresse aux professionnels et du coup les flux sont réguliers, très fréquents et avec des gros volumes, ce qui fait qu'on arrive beaucoup plus rapidement qu'avec des emballages plutôt pour les consommateurs à arriver en fait à ce niveau de massification et à ce niveau de coût, justement iso-coût pour le fournisseur.
Oui, et c'est pas un hasard que vous soyez basé à Rungis, qui est le plus grand marché de produits frais en Europe.
Oui, c'est ça en fait, effectivement, c'était pour optimiser la logistique, c'était déjà dans une idée de dire on va vraiment essayer de se positionner au mieux pour déjà enlever des coûts supplémentaires logistiques qu'on pourrait avoir, c'est effectivement pour avoir déjà être au centre de tous ces flux de marchandises, et c'est pas un hasard le fait qu'on ait choisi vraiment de s'adresser à des emballages professionnels, et on est les seuls aujourd'hui en fait en France parmi tous les projets qui existent autour du réemploi d'emballage à être vraiment à s'adresser à des professionnels. C'est pas du tout j'utilise le mot sexy parce que c'est des emballages qu'on voit pas, et puis voilà, c'est des emballages un peu industriels de transport. La plupart des gens qui veulent créer un projet de réemploi d'emballage vont plutôt sur des emballages consommateurs qu'on voit tous les jours, les emballages de livraison de repas, les barquettes qu'on voit dans les supermarchés, les bouteilles d'eau, etc. Nous, le positionnement, c'était de dire, bah, en fait, il y a tous ces emballages-là qu'on voit jamais et qui, en fait, qui représentent des volumes et des poids hallucinants. Et qui en plus, avec les volumes possibles, permettent d'atteindre une rentabilité beaucoup plus rapide.
Ouais. Et donc c'est pas qu'effectivement ils sont pas visibles. Néanmoins, le restaurant qui a besoin de s'approvisionner par exemple en café, qui a besoin de tenir une à deux semaines, est-ce que c'est pas nécessaire pour lui d'avoir un carton qui soit étiqueté, j'en sais rien moi, Lavazza ou autre, pour se dire bon en fait quand je vais dans la réserve, je sais où se trouve le café parmi d'autres denrées. Est-ce que du coup PandoBac permet ça, d'identifier facilement le type de marchandise?
Alors, les bacs aujourd'hui, sur l'identification des produits, il y a une étiquette qui est mise dessus par le fournisseur pour identifier le produit. Les bacs, en soi, on peut aussi mettre des logos dessus, c'est tout à fait faisable. Nous, nos bacs, ils sont logotés PandoBac, on est écrit en gros, c'est la propriété de PandoBac, n'y touchez pas, ne le gardez pas. Mais en soi, on pourrait logoter aussi. Nous, on n'est pas particulièrement favorable à ça parce que du coup, ça permet pas, comme je disais au début, de standardiser et de massifier en fait les emballages. Si chacun effectivement a son emballage avec sa marque dessus, bah, y a que avec lui qu'on pourrait utiliser ces emballages. Donc ça permet pas de diminuer justement les coûts liés à la massification, mais c'est faisable. Mais après, effectivement. L'autre chose, la différence entre les emballages professionnels et les emballages consommateurs, c'est qu'il y a un besoin beaucoup moins fort de marketing. Clairement, une étiquette collée sur un bac pour dire que ça, c'est du café, bon, ça marche déjà très bien et voilà, il n'y a pas besoin de plus différencier en tout cas l'emballage de transport.
D'accord. En termes de business model, vous fonctionnez par abonnement et après, ce sont des options en fonction du lavage, de la collecte.
Oui, en fait, comme je disais, bon, les différentes briques en fait peuvent être prises un peu indépendamment. Ce que nous, on oblige entre guillemets à prendre, parce que sinon en fait, ça n'a pas de sens ce qu'on fait et on refuse de le faire, c'est qu'il faut absolument que les bacs soient suivis. Donc pour le coup, nous on ne vend pas de solution si on ne vend pas du suivi en fait sur les contenants. Pour assurer justement, comme je disais, la réutilisation, le fait de pas les perdre, de s'assurer du nombre de cycles en fait que les contenants vont faire avant la fin de vie, donc toutes ces informations essentielles justement pour optimiser les cycles de réemploi. Et donc on fait effectivement sous forme un peu d'un abonnement, mais c'est lié en fait au service qu'on propose, c'est-à-dire que nous on est vraiment prestataire de services d'emballage réutilisable. Donc on est là pour gérer entièrement en fait la flotte en fait d'emballage réutilisable et toutes les opérations logistiques autour. Donc effectivement les clients aujourd'hui ils s'abonnent effectivement à notre service et derrière en fait pour eux, pour calculer aussi ce qu'ils y gagnent, on fait revenir disons ce coût de l'abonnement à un coût d'utilisation par contenant. Donc à chaque fois qu'ils vont utiliser un bac, en fait, il y a un prix derrière d'utilisation avec lequel ils peuvent comparer franchement le prix de l'emballage jetable.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il se passe quand le restaurateur ne rend pas les bacs?
Alors, plusieurs choses possibles, effectivement. Le restaurateur, aujourd'hui, donc lui, ça l'arrange, effectivement, comme je disais, de plus avoir d'emballage jetable. Donc, il est plutôt content. Ils sont tous assez volontaires, quand même, pour redonner et faire que le système fonctionne bien. Après, il y a forcément dans une grosse cuisine, voilà, des équipes qui peuvent tourner, par exemple, des gens qui sont qui sont intérimaires, ou enfin, il y a forcément des choses qui font que il y a des erreurs humaines et les bacs peuvent effectivement se retrouver stockés dans une cuisine, dans une chambre froide, sans que le livreur puisse les récupérer. Nous, en fait, on a toutes ces données-là, de savoir quel restaurant a combien de bacs et ça fait combien de temps en fait qu'il les a pas rendus. Et on a différents types d'actions. Nous, on envoie des mails au restaurant qui sont hebdomadaires pour leur dire, bah voilà, vous avez tant de bacs, pensez à les rendre, etc. Donc, il y a une sensibilisation par rapport au restaurant. Et ensuite, c'est des informations qu'on remonte à nos clients, bien entendu, de dire, bah attention, effectivement, ce restaurant, il commence à en avoir pas mal et à chaque fois, il oublie d'en rendre deux, trois. Et là, dans ce cas-là, donc le client, du coup, est au courant, donc il prévient les livreurs pour... pouvoir inciter un peu plus à les récupérer. Et sinon, effectivement, si bah, c'est toujours compliqué, nous, on peut aller voilà, vraiment sur place pour aller bah, les collecter et échanger directement avec le restaurant pour comprendre ce qui se passe, quoi. Il y a jamais, en fait, de mauvaise volonté de la part des restaurants. C'est plutôt, effectivement, comme je disais, des problèmes voilà, internes ou pas problèmes, mais qui font qu'il y a beaucoup de personnel et tout le monde n'est pas forcément aussi sensibilisé de la même manière.
D'accord. Et un colis en fin de vie, parce que ça peut arriver aussi qu'il soit cassé pendant le transport ou parce que tout simplement il a été beaucoup, beaucoup réutilisé, qu'est-ce qu'il devient ?
Alors pour le moment, ça ne nous est jamais arrivé, donc on touche du bois, mais ça fait donc deux ans et demi là qu'on est en fonctionnement et effectivement ça, on a jamais eu d'emballage cassé. Et ce qui se passe, nous, ce qu'on a prévu, c'est effectivement de pouvoir les récupérer pour pouvoir les envoyer au recyclage, parce que s'ils partent dans les poubelles des restaurants, bah, y a de grandes chances effectivement qu'ils partent à la décharge. Donc, on incite les gens de toute façon à nous les redonner dans tous les cas, et nous, on fait des stocks qu'on peut envoyer ensuite aux fabricants directement pour qu'ils puissent les recycler.
C'est super. Est-ce que vous avez déjà mesuré l'impact environnemental ? Je ne sais pas aujourd'hui combien de bacs sont sur le marché. Et du coup, est-ce que vous avez pu comparer par rapport au nombre d'emballages uniques qui sont jetés pour mesurer vraiment cet impact sur l'environnement ?
Oui, ben alors nous, pour aller encore plus loin, ce qu'on a fait, nous, au tout début de notre activité, donc avant même que ça soit en service, on a voulu faire une analyse de cycle de vie, une analyse d'impact avec un cabinet spécialisé pour se dire, mais déjà, nous, on était persuadés, donc avec mes associés, que le réemploi d'emballage était plus écologique que l'emballage à usage unique. Ça nous paraît absurde de pas être, enfin, que ça soit pas le cas. Donc, on s'est dit quand même, on va faire une étude sérieuse pour être sûr de pas partir dans une mauvaise direction et de pas se tromper de combat. Donc, on a fait ça en 2018-2019 et il a été démontré, donc avec vraiment notre système, avec notre logistique, avec le fait d'être à Rungis, donc enfin, plein de données d'entrée qui étaient vraiment caractéristiques de Pandobac, qu'en fait, donc l'emballage réutilisable et le système tel qu'on l'imaginait et faisait économiser à peu près 4 fois de poids de déchets en fait, en moins, ça générait 4 fois moins de déchets, ça utilisait 4 fois moins d'eau aussi et les émissions de CO2 étaient divisées par 4 aussi. Donc c'est un peu les grands enseignements qu'on avait eus de cette étude et qui nous ont confortés sur l'idée de dire bah oui, en fait, c'est ça qu'on veut faire et on sait qu'on va dans la bonne direction pour le faire.
Oh, c'est canon. Et aujourd'hui, vous avez combien de partenaires, enfin, plutôt des clients, à vrai dire, restaurateurs, collectivités ou autres, avec voilà, combien vous fonctionnez?
Alors aujourd'hui, en termes de restaurants livrés, alors j'ai plus exactement en tête, mais à Paris, il doit y avoir 500 restaurants à peu près qui sont livrés avec des bacs réutilisables. On a des clients, donc fournisseurs, qui sont de toute taille, autant, comme je disais, des petites entreprises familiales et autant des groupes nationaux. Donc on a vraiment voilà, tout type d'entreprise et on est majoritairement en Île-de-France, mais également on a un client en Bretagne, un client en Normandie, un client à Lyon. Donc voilà, on essaie de se développer et c'est un peu l'objectif là de l'année à venir, c'est de pouvoir se déployer un peu plus massivement en France et en termes aussi de collectivités, comme je dis, on est quand même beaucoup présent à Paris et en région Île-de-France, mais on a la métropole de Lyon qui nous soutient beaucoup pour qu'on vienne s'installer. Donc voilà, on a beaucoup de soutien un peu partout.
Parlons de projet, justement. Quelle est la vision de Pandoback? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs, soit en termes de nombre de clients, soit en termes, on parlait tout à l'heure en début d'épisode, de pourcentage de professionnels qui réutilisent les emballages? Quels sont vos KPI à vous?
Alors nous, on a bien sûr des objectifs, alors qui sont revus tous les, on va dire, 6 mois à peu près, parce que on est quand même à un rythme de start-up hein, où les choses évoluent très très vite. Et nous, nos objectifs, effectivement, c'est plutôt des objectifs donc alors, de chiffre d'affaires, mais donc forcément liés un peu au nombre de clients. Et ce qu'on veut vraiment là, c'est de pouvoir nous déployer plus massivement en France et pas rester que en Île-de-France, aussi pour montrer que c'est un modèle qui se réplique en fait partout ailleurs, un peu différemment bien sûr, parce qu'il n'y a pas la même densité, il n'y a pas forcément le marché d'énergie, c'est unique, hein, c'est le marché qui est 10 fois plus grand que le deuxième marché de gros en France. Donc forcément les modèles seront différents, mais il y a des vrais modèles voilà locaux à trouver pour Pandoback, et c'est un peu ça voilà l'objectif qu'on se fixe ouais, principalement pour l'année prochaine.
Oui, en plus de ça, à horizon 2025, il y a quand même une législation sur la fin de l'emballage plastique. Donc ça, j'imagine que ça va être aussi un super tremplin pour Pandoback.
Oui, alors les législations là en ce moment, c'est pas mal, effectivement. On est assez content de vers où on va, de vers où on se dirige. Il y a beaucoup de choses dans la loi AGEC qui nous aident dans notre développement. Comme je disais tout à l'heure, il y avait une étude de l'ADEME justement pour estimer les gisements d'emballage professionnel pour la restauration, parce que c'est dans le cadre en fait d'une REP, donc restauration, en fait, qui est un dispositif qui va taxer. En fait, les emballages jetables mis sur le marché pour ce secteur-là. Donc forcément, les emballages jetables vont coûter encore plus cher qu'aujourd'hui parce qu'ils vont être taxés de manière supplémentaire. Il y a beaucoup de choses aussi dans la loi AGEC sur justement une proportion d'emballages réemployables qui doit être mis sur le marché. Donc il y a des choses très concrètes en fait sur le réemploi. Donc on est assez content de tout ça et on voit clairement que ça joue beaucoup dans les discussions qu'on a avec nos clients et prospects. Il y a 3 ans, comme je disais, il n'y avait vraiment aucune conscience que ça pouvait poser problème d'utiliser des emballages jetables. Aujourd'hui, en fait, les gens se rendent compte que c'est pas très viable et que forcément, il va y avoir ou une loi ou les consommateurs en fait qui vont leur tomber dessus.
Et en termes de vision d'entreprise, de projet, est-ce que vous envisagez comme axe de développement plutôt d'élargir la couverture géographique, plutôt de se tourner vers du B2C, ou est-ce que vous restez concentré sur les professionnels uniquement?
Alors nous, voilà, on va vraiment rester sur les professionnels. C'est un positionnement qu'on a, comme je disais aussi, assez unique, qu'on veut garder. Puis on a vraiment acquis une vraie expertise opérationnelle sur le sujet. Donc c'est effectivement plutôt rester sur ces emballages professionnels, déployables du coup en France, enfin toute France, et principalement effectivement sur de l'alimentaire. Mais après, on est pas du tout fermé à d'autres types de secteurs, mais on va rester sur l'emballage professionnel. Et par contre, sur la partie conseil et accompagnement, là, pour le coup, on est ouvert à tout type d'emballage parce que, au final, conseiller sur comment mettre en place une boucle de réemploi d'emballage, peu importe en fait le type d'emballage, c'est toujours les mêmes questions qui se posent sur quel contenant je choisis, comment je m'occupe de la collecte, du lavage, comment je suis, comment je refacture éventuellement les contenants perdus, combien ça va me coûter, etc. Donc c'est toujours les mêmes questions quel que soit l'emballage. Et ça, on travaille aujourd'hui avec pas mal d'entreprises qui font plutôt des emballages pour consommateurs. Mais en termes vraiment opérationnels, Pandoback avec les bacs réutilisables, on va rester sur le côté professionnel.
D'accord. Et ta vision à toi d'un monde meilleur, si tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que ça serait ?
Moi, je suis plutôt contente au final du monde dans lequel on vit. Alors, malgré effectivement tout ce qu'on peut entendre, moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste qui voit plutôt les bons côtés des choses. Je trouve que là, l'effervescence écologique depuis quelques années est incroyable, quoi. En fait, on a complètement changé de discours, de vision, de façon de consommer aussi, hein, malgré tout. Ça a quand même beaucoup, beaucoup évolué. C'est sûrement pas assez rapide, mais en fait, je trouve que l'énergie est quand même très positive. Donc, ce qui pourrait être changé, peut-être plus au niveau des entreprises, de dire que les entreprises vont pas forcément à la même vitesse, en fait. Je trouve que le changement de comportement des consommateurs et de mentalité, donc peut-être réussir à embarquer plus rapidement et plus largement les entreprises sur la transition écologique.
Ok, super. En plus du coup d'être fondatrice de Pandobac, tu es aussi administratrice du mouvement Impact France, qui est la communauté des entreprises qui développent des solutions tech et digitales pour accélérer la transition vers une société plus durable et responsable. Et en plus de ça, tu es présidente du réseau Consigne. Alors, qu'est-ce que ça implique au quotidien et en quoi ça contribue à faire évoluer justement toutes ces mentalités et puis toute cette transition vers une économie plus circulaire et plus durable?
Moi, je crois beaucoup à la force de réseau et de se rassembler parce que nous, au final, on a un impact tout petit. Hein, si on regarde à l'échelle de la France, on est tout petit, on a un tout petit impact. Mais en fait, notre impact plus les petits impacts en fait de plein d'autres entreprises et associations, ça, c'est ça qui a la vraie force du changement. On a toujours été beaucoup impliqués dans des réseaux à s'entraider en fait. Et donc pour moi, c'est vraiment ça, de s'engager auprès d'autres entreprises, de porter une voix commune. Alors bien sûr, beaucoup pour faire du plaidoyer auprès des institutions publiques, pour avoir du poids dans des discussions, pouvoir montrer qu'on existe et qu'en fait on a des besoins pour aller plus loin et plus vite. C'est hyper important. Et le réseau Consigne, c'est très spécifique en plus pour les projets de réemploi. Là, pour le coup, on essaie de rassembler au maximum les projets autour du réemploi d'emballage. Et là, pour partager aussi nos différentes expertises, expériences territoriales, nos contacts, nos expertises techniques aussi autour du lavage, etc. Et là, clairement, on apprend beaucoup et on s'entraide, disons, pour faire développer le réemploi d'emballage en France.
Et à titre plus personnel, toi, dans ta vie quotidienne, quels sont les gestes green que tu as pu mettre en place et qu'est-ce que tu aimerais nous partager ?
Alors, du coup, moi, je suis quand même assez, assez sensible au zéro déchet, forcément. Je ne suis pas végétarienne, pour le coup. Ça, je pense que c'est quelque chose où j'arriverai peut-être un jour, mais aujourd'hui, je considère qu'on ne peut pas mener tous les combats en parallèle et j'en ai pas forcément envie. Du coup, ce que je fais, moi, c'est que je diminue effectivement énormément mes déchets, tout confondu. Donc je composte effectivement les déchets alimentaires et en termes d'emballage, moi j'achète que des produits donc frais que je vais acheter donc en vrac avec des sacs vrac. J'ai assez peu de déchets, je commande pas à manger, je ramène effectivement mes petites boîtes quand je vais chercher à emporter. Donc c'est plutôt sur le déchet vraiment que j'essaie d'agir.
C'est top. Et quelles sont tes sources d'inspiration ?
J'en ai pas énormément, dans le sens où ce que je fais là, Pandobac et ce que je fais dans ma vie, ça découle vraiment de ce que moi, de la logique des choses, quoi. C'est que ça me paraît très illogique de revenir, par exemple, d'aller prendre, si je reprends l'exemple d'aller faire ses courses, mais de prendre un petit sachet Kraft pour mettre 3 pommes dedans, revenir et jeter le sac Kraft, quoi. C'est des choses, moi, qui me dépassent un peu, et c'est purement de la logique. Donc, en fait, ce que je fais, moi, dans ma vie, et les changements que je fais, c'est purement par rapport à comment je me sens et comment je me sens en phase avec moi-même et ce que je fais. Et sinon, j'ai été disons, lancée dans le milieu un peu zéro déchet par ma belle-sœur, qui est une extrémiste du zéro déchet. Et pour le coup, elle, c'est vraiment, elle va très très loin. Et en fait, c'est vrai que c'est des combats qui me... Enfin, je suis assez admirative, parce que je ne pense pas avoir cette force de caractère pour le faire d'une manière aussi poussée et aussi extrême. Et c'est vrai que c'est motivant d'avoir ce type de personne dans son entourage pour aussi s'améliorer quoi, au quotidien.
Oui, et trouver d'autres sources d'inspiration ou des petits gestes qu'on peut mettre facilement en place. Ça prend aussi parfois beaucoup de temps de trouver des nouvelles idées. Et quand on peut s'inspirer des uns et des autres, bah, des fois, ça fait gagner beaucoup de temps. Et c'est plus facile. Ça motive aussi. Super, merci beaucoup pour ce partage. Je crois qu'il est temps qu'on passe au petit quiz. Est-ce que tu es prête ?
Bah oui.
Alors l'idée, c'est que je te pose une série de questions avec à chaque fois un choix de réponse, un choix A ou un choix B. Et je vais te demander de répondre le plus spontanément possible par la réponse A ou par la réponse B. Allez, c'est parti. Pour te rendre au travail, plutôt voiture ou plutôt vélo ?
Alors j'ai une phobie du vélo. Et je n'ai pas de voiture parce que de toute façon la voiture voilà. Bah, du coup je dirais la réponse C, transport en commun ou avec mes pieds.
Très bien. Pour voyager, plutôt Air France ou Blablacar?
Ah bah non, Blablacar, moi j'aime beaucoup.
Pour acheter tes cadeaux de Noël, Amazon ou Emmaüs?
Ah, c'est un peu facile comme question quand même. Bah Emmaüs, non. je commande jamais moi de toute façon donc.
Très bien. Quand tu n'as rien dans ton frigo, plutôt un McDo ou un Too Good To Go?
Too Good To Go, mais j'ai toujours des choses dans mon frigo parce que j'ai des petites épiceries locales très sympas à côté de chez moi. Donc voilà, j'ai toujours des choses dans le frigo.
Parfait. Pour t'endormir le soir, est-ce que tu as plutôt Netflix ou un bon bouquin?
Alors, j'ai pas vraiment besoin ni l'un ni l'autre parce que j'ai des journées très chargées et j'ai ma fille aussi qui me prend beaucoup d'énergie. Donc, en fait, juste le lit et mon oreiller, ça suffit très bien.
Ça suffit, c'est parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour des réponses spontanées à ces questions et surtout pour la présentation de PandoBag. J'espère que ça inspirera aussi un maximum de professionnels à passer sur des solutions de réemploi, mais aussi à titre privé, que chacun d'entre nous puisse aussi prendre conscience de l'impact des déchets, des cartons réutilisables, et ce qu'ils peuvent avoir comme effet positif sur l'environnement. Donc merci pour cette belle présentation, et puis en espérant que de voir beaucoup plus de colis PandoBag dans les restaurants et autres enseignes professionnelles. Merci beaucoup, Chou.
Merci.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Votre épisode communautaire est maintenant terminé. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à noter ce podcast avec une note 5 étoiles ou un gentil commentaire sur Apple Podcasts, ça m'aide énormément à faire grandir la communauté. Partagez-le à au moins 2 personnes autour de vous et inscrivez-vous à la newsletter, je vous enverrai le prochain épisode par email. Vous pouvez vous rendre sur le blog www.communautaire.com pour retrouver les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.